en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Au début de leur première séance de rentrée, le lundi 27 septembre 2010, les membres de l'Académie des sciences morales et politiques ont respecté une minute de silence à la mémoire de leur confrère Jacques Dupaquier, décédé le 23 juillet 2010 à Pontoise. Le président de l'année, Jean Ménard, a prononcé un hommage à l'historien spécialiste de l'histoire des populations et de démographie historique. Sur le site de Canal Academy, www.canalacademy.com, vous trouverez des éléments de biographie de Jacques Dupaquier. Canal Academy a enregistré cet hommage que vous allez entendre maintenant.
Alors il m'appartient maintenant de rendre hommage à notre regretté confrère Jacques Dupaquier. Le début de nos vacances d'été a été profondément attristé par la nouvelle de la disparition, après une longue maladie, de notre très estimé confrère Jacques Dupaquier. Il est mort le 23 juillet 2010 à l'hôpital de Pontoise, capitale du Vexin français. Ses obsèques, où l'Académie des sciences morales et politiques a été représentée par M. le chancelier Gabriel de Broglie, par M. Jean Cluzel et par moi-même, ont été célébrées comme il l'avait souhaité dans l'impressionnante église Saint-Gervais-Saint-Protais de Gisors, capitale du Vexin normand. Ainsi, ce pays du Vexin auquel il s'était tant dévoué l'a-t-il symboliquement entouré en ces moments de deuil. Il n'y avait pourtant pas élu sa sépulture. C'est dans le département de la Manche, pays d'origine de sa famille, qu'il a été inhumé. Ce point, rapproché du lieu de sa naissance, à Sainte-Adresse, près du Havre, le 30 janvier 1922, suggère qu'au-delà du cercle du Vexin, il aimait se rattacher à un autre plus vaste, celui de la Normandie. Mais en même temps, toute sa vie le montre viscéralement français. Il ne reste plus qu'à constater, en le suivant dans ses missions lointaines ou en consultant ses œuvres, la connaissance intime qu'il avait de la terre entière, pour lui conférer un titre qu'il n'a jamais revendiqué, mais qui lui convenait à merveille, celui de citoyen du monde. À toutes ces orientations complémentaires, autant de visages correspondent chez celui qui nous les propose. Et l'on pourrait les multiplier encore en ajoutant au lieu les temps. Car Jacques Dupaquier était à la fois trop curieux et trop sensible pour ne pas se laisser saisir et interroger en profondeur par tous les courants intellectuels et humains dont notre époque a été traversée. Deux d'entre eux, l'un et l'autre d'ailleurs complexes, l'un religieux, surtout catholique en France, l'autre gravitant autour du Parti communiste, l'avait marqué. Très jeune, Jacques Dupaquier les rencontra tous les deux, le premier sous l'influence d'une mère très pieuse qu'il vénérait et sous celle du scoutisme, le second par son engagement très précoce dans la résistance qui se conjugua par le fait des circonstances avec un autre dans les organisations communistes. Ce dernier chemin, rapidement parcouru dans un temps qui était aussi celui des études, le fut encore, mais en sens inverse et d'une manière très progressive, jusque vers 1960, sous l'effet d'une expérience personnelle décevante et de l'évolution de l'Union soviétique, comme j'aurai à le préciser plus tard, avec, pour finir, des ruptures assez fracassantes. La suite a été marquée par l'approfondissement de la formation religieuse initiale et la constitution finale de la forte personnalité que nous avons connue. Tous ces contrastes se sont assemblés dans l'ample série des événements qui ont empli l'existence de Jacques Dupaquier. Mais s'ils ont pu susciter des amitiés et des animosités, il ne me semble pas qu'ils aient donné lieu à de graves conflits intérieurs, même ceux qui se sont manifestés entre des options fondamentales. On a entendu s'exprimer, lors de ses obsèques, à la fois sa famille communiste et sa famille catholique, sans qu'une même fidélité n'ait cessé d'être présente, image de celle qu'il aurait souhaitée. La diversité des matières abordées était soutenue chez lui par une forme constante, une sorte d'énergie vitale, au service de valeurs chères qu'il s'agissait d'abord de défendre dans leur intégrité. Une énergie que ses modalités diverses, que je nommerais passion, action, science, n'empêchaient pas de rester une. On en aura la preuve en essayant de saisir, dans leur portée profonde, quelques moments essentiels de sa vie. Ses premiers engagements ont remonté à ses années d'études dans la cagne de Louis Grand. Engagement dans la résistance, d'abord, dès la manifestation du 11 novembre 1640. Il avait 18 ans. Affirmation de fierté française et de volonté d'action. Puis, après l'entrée à l'École normale supérieure de Saint-Cloud en 1942, entrée au Parti communiste par attachement à un idéal social et par participation à la résistance dans la FTP, il fut secrétaire de cellule à Pontoise, où il avait été nommé professeur d'histoire et devint conseiller municipal de la ville. Agrégé en 1949, il poursuivit sa carrière au lycée de Montmorency de 1954 à 1962. Cette dernière période fut celle de son exclusion du Parti communiste en 1956. Ce fut un autre épisode mémorable de son existence, témoignant de ses scrupules sur les règles à suivre dans l'action, même au service de valeurs plus ou moins authentiques. L'exclusion avait certainement été préparée par une lente désillusion personnelle où son expérience française avait reçu un prolongement européen par l'écho survenu de l'évolution des démocraties populaires et de l'URSS même. Il avait hâte de visiter ce dernier pays et de le découvrir dans sa vérité. En septembre de cette année 1956, il eut la chance d'être admis, en dehors de toute recommandation du parti, dans un groupe envoyé en mission sur place par l'association France-URSS. Les impressions qu'il rapporta sont relatées par lui avec un brio et une clairvoyance exceptionnelles dans une interview recueillie sensiblement plus tard, en 2003, mais très concrète et précise, et faisant état de comparaisons fort utiles avec des voyages ultérieurs. L'année 1956 se situait en pleine période de déstalinisation, évidemment confuse et ambiguë, où les restes du régime oppressif antérieur se combinaient avec les désordres entraînés par le changement. Le voyageur n'avait qu'un objectif, tout voir et tout savoir. Remarquablement exercé dans l'art de la documentation, habile par exemple à tirer parti d'un vol aérien à 2300 mètres altitude, qui, comme il l'explique, fait de l'avion un merveilleux observatoire, ou à provoquer un petit scandale pour mettre une fin à une investigation trop pressante. Il suffit de gêner ce qui vous oppresse, ce qui vous opprime. Il employait une grande virtuosité à déjouer la surveillance, d'ailleurs aussi maladroite que tatillonne, dont il est l'objet, pour regarder, photographier, poser des questions quand c'était possible. D'où une multitude d'observations mises en relief, comme celle de la misère côtoyant là les réalisations spectaculaires, ou celle de superbes machines se délitant à l'air libre faute de hangars pour les abriter. D'où aussi une série de diagnostics sur les causes de cette situation, mélange d'autoritarisme et de laisser-aller, prééminence de la théorie sur l'expérience, découragement systématique de toute initiative, appel constant à l'idéologie pour faire accepter ce qui ne va pas, pour culpabiliser les récalcitrants. Certes, et Jacques Dupaquier le savait bien, l'état de l'URSS à l'ère Khrouchtchev, notamment son inorganisation, ne pouvait être automatiquement étendu à d'autres périodes. Mais il voulait surtout dénoncer des vices inhérents au régime dont il pressentait les conséquences ruineuses. De toutes ces expériences, la française et les étrangères, confirmées dans son esprit par celles nombreuses qu'il fit encore par la suite dans le monde entier, Jacques Dupaquier ne tira pas une redéfinition de la politique, mais une condamnation générale et très violente de toute politique, considérée comme le domaine du mensonge, du faux-semblant et de la démesure, mettant en avant l'action menée de bonne foi, concrète, limitée, réfléchie et constructive pour ses raisons, celle que préconise Voltaire en invitant chacun à cultiver son jardin. Point de vue attirant le respect qu'inspirait la personne même de Jacques Dupaquier, mais que l'on peut juger un peu court, et surtout mêlant curieusement le pessimisme qu'il professait volontiers et un optimisme peu plausible. Pessimisme devant les méfaits de toutes les ambitions, les plus élevés comme les plus médiocres, optimisme quant à la confiance à placer dans le jeu de bonne volonté, difficilement mobilisable. C'est pourtant cette vertu profonde qu'il a manifestée pour son propre compte, déployant les trois formes d'énergie qui l'animaient, comme je l'ai dit. Au centre, l'action, qui fait que cet intellectuel, la quarantaine venue et passé le temps des grands engagements, ne s'est pas borné à manier la parole et l'écriture, mais y est toujours demeuré un militant. Il l'a été dans son métier de professeur et de chercheur. Il ne l'a embrassé, du moins sous cette double forme, qu'après sa rupture avec le communisme, qui a déterminé un changement d'orientation professionnelle. En 1962, il quitte le lycée de Montmorency pour entrer au CNRS. Il sera ensuite assistant à la Sorbonne, puis maître assistant à l'École pratique des hautes études. Il y devient directeur d'études en 1970, lorsqu'elle est désormais École des hautes études en sciences sociales. Il y restera jusqu'à sa retraite en 1991. La consécration finale lui est venue par son élection à notre Académie le 18 mars 1996 pour prendre le siège de Jean-Baptiste Durosel. Mais l'important n'est pas dans les postes qu'il a occupés, il est dans les sujets qu'il y a traités, où l'inspiration personnelle est évidente et significative. L'étude du monde populaire, notamment rural, sous l'Ancien Régime, en a constitué le point de départ. Résultat probable du succès remporté par les travaux de Pierre Goubert et des conseils donnés par le professeur Labrousse, choisi comme patron. Une thèse parue en 1979, intitulée « La population rurale du bassin parisien » à l'époque de Louis XIV. Dès 1956, elle avait été précédée par une autre concernant une partie de ce domaine, le Gâtinais septentrional. Sur le Gâtinais s'étendait une partie de la petite province jadis appelée France, dont une autre partie se trouvait en Vexin. Nous voici revenus près du territoire auquel Jacques Dupaquier a été si attaché, dont il nous parlait si souvent à l'occasion de présentations d'ouvrages et pour lequel il s'est tant dépensé. Son enseignement et son œuvre est autant d'actes reflétant sa vie profonde. Il avait, comme l'on sait, un autre centre d'intérêt de portée plus générale, lui aussi directement lié à ses premières recherches. Il n'engageait pas moins sa sensibilité et n'orientait pas moins son action. Il concernait les problèmes de démographie, d'abord dans l'histoire et de plus en plus dans le présent, non seulement en France, mais en Europe et dans le monde. Innombrables sont les angles qu'il a pris sur ce vaste sujet, qui le touchait profondément par ses aspects politiques et moraux et par les prises de position diverses qu'il suscitait. Mais il percevait d'abord l'urgence de porter un regard scientifique par le biais des enquêtes, des statistiques et de la théorie sur des problèmes souvent négligés ou déformés. Sa production considérable en ce domaine a donc été consacrée soit à des essais de méthodologie générale, incluant une étude sur le Malthus, soit à des sortes de portraits de populations diverses, soit à des monographies sur des points particuliers comme le mariage, le vieillissement, la durée de la vie des femmes et aussi, vous le savez, celle des académiciens, l'immigration, la démographie, les religions, etc. La science s'achevait naturellement en prospective, en définition de responsabilité et en réflexion sur les options à prendre, tous problèmes sur lesquels il n'a cessé d'attirer notre attention tant qu'il a siégé parmi nous. Car pendant nos séances, il demeurait encore un militant. Si toute sa vie professionnelle a été éminemment active, elle se doublait à cet égard par une présence assidue dans la vie associative. Mais sur ce nouveau terrain, on retrouverait ses grandes passions, celles qu'il portait aux études démographiques, celles qu'il attachait à la terre du Vexin. C'est dans la première direction qu'il fut d'abord conduit, sans doute par Ernest Labrousse. Il accepta très vite de lourdes responsabilités. Il fut secrétaire général, puis président de la Société de démographie historique, acceptant entre-temps la présidence de la Commission de démographie historique à l'Union internationale. Parallèlement, il fut rédacteur en chef puis directeur des Annales de démographie historique. S'il délaissa par suite cette catégorie de charges, ce fut certainement pour se consacrer davantage à son cher Vexin. C'est pourtant de ce côté-là que son attention s'était tournée d'abord, notamment par le choix de son sujet de thèse. Mais du Vexin, il ne parcourut d'abord que les chemins, il n'examina que les archives, ce qui le jeta dans une action plus militante, fut la révélation qu'il eut, vers 1965, des menaces que faisaient peser sur cette terre des projets d'urbanisation, d'industrialisation, de remodelage, qui risquaient d'en changer complètement le caractère. Il se donna donc pour mission de chercher partout de bonnes volontés efficaces pour faire empêcher ce qui aurait été un désastre écologique. Il n'obtint guère du succès du côté des sociétés locales, dont il devait pourtant présider certaines, mais il réussit à entraîner le président du Conseil général du Val-d'Oise, qu'il avait pourtant combattu pendant sa période communiste et qui devint pour lui un précieux allié. En 1967, il avait obtenu assez de concours pour fonder une association des Amis du Vexin français qu'il organisa et présida remarquablement, lui imposant un rythme de travail soutenu et un code de bonne conduite propre à attirer toutes les sympathies. Plusieurs préfets successifs furent gagnés et prirent de très heureuses décisions. Les élus locaux ne furent pas moins coopératifs. En 1995, était obtenue la création d'un parc naturel régional du Vexin français qui donnait un caractère d'institution au fruit d'un très long travail. En 2008, Jacques Dupaquier pouvait mettre fin à 40 années d'une présidence exemplaire. C'est sur l'écho de ce succès, mais je remarquerai seulement qu'il s'inscrit fort bien dans la ligne de nombreux projets déjà poursuivis ou destinés à l'être par l'Institut de France qu'il convient de quitter notre cher confrère. Pour aller au-delà de tous les aspects de sa personnalité qui viennent d'être énumérés, il me semble pouvoir les résumer par deux traits. C'était un terrien, non seulement parce qu'il était attaché à la terre, celle de sa province comme celle que le paysan cultivait et celle qui portait la belle nature, mais par son sens du concret, son sens du possible, par son sentiment qu'une réflexion pragmatique et bien appliquée, associée à l'organisation et au travail, fournissait à l'homme la meilleure voie d'accès au mieux-être. Mais c'était aussi un prophète, un homme de l'avenir, d'un avenir marqué du sceau de l'authentique, où l'imagination et le rêve se déploient dans la mesure et où vérité et valeur gardent leur charge d'absolu. Notre émotion au souvenir de Jacques Dupaquier rejoint naturellement celle de tous ses proches. Nous adressons l'expression de nos très vives condoléances à son épouse ainsi qu'à ses enfants et petits-enfants. Je vous remercie de votre longue attention.